Chapitre 6. Depuis 10 ans, Marichette n'avait pas une seule fois prononcé tout haut le nom de Paulin, mais combien de fois souvent l'avait-elle dit et répété tout bas? Où était-il? Que faisait-il? C'était la question qui hantait son esprit le jour, la nuit, et qu'elle ne pouvait chasser. Elle avait beau se dire que c'était folie à elle, sans cesse elle y revenait. Ses journées passées près de lui, n'était-ce pas le bonheur de sa vie, tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle ne saurait jamais de l'amour? Elle ne pouvait pas plus arracher ses journées de sa mémoire qu'elle ne pouvait arracher son cœur de sa poitrine. Combien de fois se surprenait-elle à prononcer tout bas ce nom de Paulin, qui, pour elle, était la musique la plus douce et la plus troublante, toute une évocation de souvenirs qu'elle revivait par la pensée, l'arrivée de Paulin au bureau et le regard qu'ils échangeaient, la jonchée de fleurs, les dimanches passés à la chaumière de la côte de Criquefleur, le nid de Merle. Si elle avait osé, elle serait retournée à Saint-Maclou faire un pèlerinage à cette chaumière. Mais comment? Il y a 3 lieues de Berneval à Saint-Maclou. Elle n'avait pas, pour justifier une aussi longue promenade, de raisons à donner à Mademoiselle Julienne, qui ne savait rien de Paulin et ne connaissait même pas son nom, que personne ne prononçait jamais à Berneval. Parti pour Paris avec sa mère, le silence s'était fait sur lui et l'oubli. Paulin Moreau, qui ça, Paulin Moreau? Ancien commis de Belloc, ce n'était pas un titre suffisant, excepté pour les entrepreneurs peut-être qui avaient travaillé sous sa direction. Et justement, elle n'avait pas de relation avec les entrepreneurs. Tandis que Mademoiselle Julienne courait toute la côte pendant l'été avec sa voiture, elle restait au magasin où n'arrivait pas le nom de Paulin. Au contraire, il y en avait un qui, pour son supplice et sa honte, avait empli ses oreilles, celui de Victor de dessus la mare. À chaque instant, Sylvain avait parlé de Victor qui, à Criquefleur, était l'âme damnée de Simon, vivant devant celui-ci dans une plate domesticité, prêt à tout pour plaire et acceptant tout, rebuffade, injure, humiliation, pour garder sa position. Malgré cela, congédié plusieurs fois cependant, mais toujours entré en grâce, comme s'il y avait entre eux quelque lien secret que rien ne pouvait briser. Quand son cousin lui avait dit que Paulin avait demandé de ses nouvelles, les questions lui étaient montées aux lèvres. Mais pour les avoir refoulées en ce moment, elle ne les avait pas supprimées. Était-il marié? Avait-il des enfants? Il avait gagné de l'argent. Sans doute, elle était heureuse de savoir cela. Cependant, ce n'était pour elle qu'un point accessoire. Jamais elle n'avait douté qu'avec son intelligence et toutes les qualités qu'elle lui reconnaissait largement, il ne dût faire bonne figure dans le monde. Mais l'argent n'était pas tout pour elle, comme il ne devait pas être tout pour Paulin, elle en était certaine. Si c'était avec une ardente curiosité qu'elle examinait ces questions, au moins était-ce sans aucun sentiment de jalousie. Comment eût-elle pu être jalouse? Elle n'avait aucun droit sur Paulin, elle n'en aurait jamais. Qu'elle l'aimât toujours, qu'elle dût l'aimer tant que son cœur battrait, cela était tout naturel. Mais lui, combien de raisons avait-il eues pour ne plus l'aimer? Combien pour la mépriser et la haïr? Et cependant, revenant dans le pays où il s'était aimé, il s'informait d'elle. Prend-on souci de ce qu'on hait ou qu'on méprise? Il y avait dans ses interrogations de quoi troubler sa vie si calme depuis 10 ans, et aussi de quoi remplir ses heures de travail, quand, assise derrière son comptoir, l'aiguille en main, elle pouvait laisser courir son esprit. Comme elle rêvait ainsi dans le magasin où elle était seule, le lendemain du jour où son oncle lui avait parlé de Paulin, la porte de la rue fut poussée et sur le seuil apparut un homme d'une 30aine d'années, blond de cheveux et de barbe, mais le teint bistré par un soleil plus chaud que celui de la Normandie, haut de taille, l'air affable et doux, coquettement chaussé, élégamment habillé par un bon tailleur, portant à sa boutonnière une rosette aux couleurs tendres des ordres étrangers. Lui, au moment même où elle avait son nom sur les lèvres, elle le trouvait devant ses yeux. Il s'était arrêté, mais après un court moment d'hésitation, il vint à elle les deux mains tendues. Est-il possible, dit-il, qu'après plus de 10 années, je vous retrouve telle que vous étiez lorsque nous nous sommes quittés, aussi... Il allait dire aussi charmante, mais il s'arrêta. Aussi jeune, comme si le temps n'avait pas marché pour vous. Marichette se tenait debout, éperdue, frémissante, ne sachant si elle devait mettre ses mains dans celles qui lui tendaient, ne sachant que répondre, ne sachant quelle contenance prendre. Heureusement, Psyth lui vint en aide pour la tirer d'un embarras qui la paralysait. Au moment où Paulin était entré, il dormait dans son coin et, en chien de magasin qu'il était, habitué à l'allée et venue des clients, il n'avait pas bougé. Mais, au premier mot, il avait vivement levé la tête pour écouter, puis, tout à coup, s'élançant avec des aboiements, il s'était jeté sur Paulin. « Comment, c'est toi, Psyth ? » s'écria celui-ci en le caressant. « Tu me reconnais ? Ah, pauvre vieux chien ! Il est encore vivant, il ne m'a pas oublié. Vous voyez, il ne m'a pas oublié. » « Comment vous aurait-il oublié ? » dit-elle avec un accent qui signifiait clairement qu'on ne l'oubliait pas quand on l'avait aimé. Paulin le comprit ainsi et il la regarda de façon à la troubler plus profondément encore, mais cette fois, ce fut lui qui lui vint en aide. « Vous ne vous attendiez pas à me voir aujourd'hui, n'est-ce pas ? » demanda-t-il. « Ni aujourd'hui, ni jamais. » Il en aurait été ainsi, sans doute, si je n'avais pas eu un entretien avec M. Sylvain Belloc, qui m'a appris des choses que j'ignorais. Elle n'osa pas lever les yeux, et pour dissimuler sa confusion, elle lui demanda s'il ne voulait pas s'asseoir. Il prit une chaise et s'assit vis-à-vis d'elle, de sorte que, bien qu'étant en face l'un de l'autre, ils étaient séparés par le comptoir sur lequel Marichette avait jeté son ouvrage. Alors il continua. « Si je vous dis que depuis 10 ans, je n'ai rien su de ce qui se passait à Saint-Maclou et à Criquefleur, vous le comprendrez, n'est-ce pas ? Surtout si j'ajoute que je n'ai pas su parce que je n'ai pas voulu savoir. J'étais parti désespéré, à moitié fou. Tout ce qui devait me rappeler mon désespoir m'épouvantait, j'avais peur de devenir tout à fait fou. Il a fallu que 10 ans passent sur mon chagrin pour que j'ose revenir à Saint-Maclou, et encore n'y suis-je revenu que pour ma mère, afin de la ramener finir sa vie dans son pays. » Elle crut qu'elle pourrait échapper à ces paroles qui la bouleversaient en mettant l'entretien sur Madame Moreau, mais après avoir répondu que sa mère était toujours en bonne santé et qu'elle avait bien supporté ces 10 années, il revint à ce qu'il voulait dire. « C'est par votre cousin Sylvain que j'ai appris la vérité, toute la vérité. » « Je vous en prie, » interrompit-elle en détournant la tête, « ne parlons pas de cela. Rien ne peut m'être plus cruel et nous n'avons ni l'un ni l'autre à revenir sur ce qui s'est passé et sur ce qui est irréparable. Au moins, deviez-vous savoir comment et pourquoi, depuis 10 ans, vous n'avez pas entendu parler de moi ? Qu'avez-vous dû penser ? Que vous me méprisiez ! Et vous avez pu vivre avec cette pensée ? Que pouvais-je ? Je ne savais même pas où vous étiez. Et quand je l'aurais su, qu'aurais-je pu faire ? Que j'ai été ou que je n'ai pas été coupable, il n'en était pas moins vrai que nous étions séparés à jamais. Il y avait un abîme entre nous que nous ne pouvions ni l'un ni l'autre franchir. Quand je vous aurais donné la preuve que j'étais victime de la fatalité, cela n'eût pas supprimé cette fatalité. Mais laissons cela, qui ne peut être que cruel pour tous deux, et dites-moi ce que vous avez fait pendant ces 10 années. Pour moi, ma vie s'est écoulée ici, dans ce magasin, d'où je ne suis pas sortie, travaillant auprès d'une excellente femme, Mademoiselle Julienne, qui a été pour moi une mère. » Il fit le récit qu'elle lui demandait. Après 3 années d'études à Paris, on lui avait offert une situation en Turquie. Il était parti, emmenant avec lui sa mère qui avait voulu le suivre. Il avait eu la chance de réussir, et s'il n'avait pas fait fortune, au moins avait-il gagné une certaine aisance qui lui permettrait de ne plus séjourner que 4 ou 5 mois en Turquie. Le reste du temps, il le passerait à Paris ou à Saint-Maclou auprès de sa mère, pour laquelle il allait construire une maison dont il avait donné les travaux à M. Belloc jeune. À ce moment, Psyth, qui était resté la tête posée sur les genoux de Paulin, courut à la porte joyeusement. C'est mon fils qui revient de l'école, dit Marichette. C'était en effet Pierre qui arrivait. Lorsqu'il entra, Paulin se leva avec un mouvement dont Marichette ne comprit que trop bien la signification. Ce n'était pas seulement la fatalité qu'il y avait entre eux, c'était aussi cet enfant.